Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, les amyloses héréditaires à transthyrétine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Laurent Magie. Professeur Magie, bonjour.
Bonjour.
Professeur Magie, vous êtes neurologue, professeur des universités à la faculté de médecine de Limoges et praticien hospitalier au sein du service de neurologie du CHU de Limoges. Vous êtes également responsable du centre de référence pour les neuropathies périphériques rares et vous avez participé à l'élaboration du récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur les neuropathies amyloïdes familiales. Alors, professeur Magie, ma première question est très simple. Qu'est-ce que l'amylose à transthyrétine ?
Comme toutes les amyloses, l'amylose à transthyrétine est liée à des dépôts d'une protéine qui va en fait prendre une conformation anormale, une conformation particulière, qui va amener cette protéine à former des fibrilles qu'on appelle fibrilles amyloïdes. Ces fibrilles vont avoir tendance à se déposer dans des tissus cibles, tels que par exemple le système nerveux périphérique ou le cœur. Pour l'amylose à transthyrétine, ce sont en fait des mutations du gène de la transthyrétine qui code pour cette protéine produite par le foie. Et en fait, ces mutations vont induire cette propriété particulière pour cette protéine de former des fibrilles et qui vont se déposer dans les tissus cibles. Donc c'est une maladie rare, bien sûr, hein, mais dont la prévalence dans le monde est globalement estimée à 20 pour 100 000. Mais les études montrent qu'il y a clairement une grande hétérogénéité de distribution sur le globe, avec des zones endémiques, comme par exemple le Portugal ou le Japon, et des zones de prévalence moyenne, comme la France, avec une maladie qui maintenant est bien connue, notamment grâce à tous les travaux qui ont été faits depuis de nombreuses années par l'équipe de l'hôpital de Bicêtre en région parisienne.
Et si on s'intéresse maintenant plus particulièrement à l'amylose héréditaire, à transthyrétine, quelles sont ses principales caractéristiques ?
Alors, c'est une maladie qui est par essence systémique. Et en fait, depuis ses premières descriptions dans les années 50, on sait que les dépôts amyloïdes sont présents dans de très très nombreux tissus cibles, parmi lesquels, comme je l'ai déjà dit, le système nerveux et le cœur, mais d'autres tissus, comme par exemple le rein, la vessie, le tube digestif, etc. Alors on a décrit au cours des dernières décennies de très nombreuses mutations de ce gène, qui est un petit gène, qui est le gène de la transthyrétine. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu commencer depuis assez longtemps à établir en fait des corrélation génotype-phénotype. C'est-à-dire que certaines mutations de cette transthyrétine vont donner des phénotypes à très grande prédominance neurologique, certaines mutations vont donner des phénotypes à très grande prédominance cardiaque, et puis dans certains cas, on aura en fait un mix entre une atteinte neurologique avec plus ou moins une atteinte cardiaque, et vice-versa. Donc en fait, ça souligne bien sûr qu'il va y avoir une collaboration nécessaire entre plusieurs médecins pour la prise en charge de ces patients.
Alors en termes de symptomatologie, professeur Magie, quels sont les principaux signes cliniques observés chez ces patients atteints d'amylose héréditaire à transthyrétine ?
Alors sur le plan neurologique, c'est d'abord et avant tout une neuropathie périphérique qui va se manifester initialement par une atteinte sensitive, parfois mais pas toujours douloureuse. Elle était décrite comme douloureuse dans les premières descriptions chez les patients portugais, mais ce n'est pas du tout toujours le cas chez les patients non portugais. Et puis surtout une atteinte qui va devenir très rapidement sensitive aux motrices avec une gêne à la marche. Finalement, ce qui va attirer le clinicien, c'est surtout le caractère très évolutif de la neuropathie, la présence éventuellement d'un amaigrissement non désiré, et puis des signes éventuels d'atteinte du système nerveux végétatif qui peuvent être extrêmement variés, mais qui sont finalement peu au premier plan, en tout cas en début de maladie. Et puis, il faut signaler que de très nombreux patients ont d'abord eu un syndrome du canal carpien qui a précédé l'installation réelle de la maladie de plusieurs années. Alors évidemment, le syndrome du canal carpien est un syndrome assez banal, et on ne va pas forcément penser d'emblée à une neuropathie amyloïde familiale. Toutefois, un syndrome du canal carpien d'emblée symétrique sévère chez quelqu'un qui n'est pas vraiment prédisposé par son activité professionnelle ou de loisir doit attirer l'attention sur la possibilité de ce diagnostic. Et puis, malheureusement, je dirais, on ne trouve pas si souvent que ça des antécédents familiaux, pourtant cette maladie est génétique. Pourquoi ? Parce que les patients peuvent être atteints très tard et les parents décédés d'une autre cause ou décédés tardivement d'une atteinte cardiaque ou neuropathique dont l'origine amyloïde n'a pas été identifiée. Et puis la porte d'entrée cardiologique, si je puis dire, c'est plutôt de l'insuffisance cardiaque avec la classique dyspnée d'effort que tous les médecins connaissent, et puis également parfois des troubles du rythme. Et pour cette pathologie, quand elle prédomine sur le cœur, l'échocardiographie va avoir une importance capitale en montrant souvent des signes d'hypertrophie ventriculaire avec particulièrement un épaississement du septum. Donc le cardiologue joue parfois un rôle vraiment prépondérant dans le dépistage de cette affection.
Et si on s'intéresse maintenant à la prise en charge de cette pathologie, au vu des différentes atteintes que vous avez indiquées, elle est probablement multidisciplinaire, mais qui sont finalement les principaux spécialistes impliqués dans la prise en charge de ces patients?
En premier lieu quand même, dans l'amylose à transthyrétine qu'on connaît, tout d'abord les neurologues et les cardiologues, puisque le tropisme de cette maladie va quand même être dirigé vers le système nerveux périphérique et vers le cœur. Parfois les internistes sont impliqués dans les phases diagnostiques initiales, parfois également, selon les centres, ils peuvent être impliqués dans la prise en charge tout simplement au long cours. Et puis, dans la mesure où il s'agit d'une maladie systémique, beaucoup de spécialistes vont graviter autour souvent d'un spécialiste qui va servir un peu de chef d'orchestre dans cette pathologie. Et les différents spécialistes peuvent être par exemple des gastro-entérologues, des néphrologues, des ophtalmologistes. Et tout ça va être en fait guidé au départ par le phénotype clinique initial. Et souvent, c'est quand même un spécialiste d'organes qui va piloter la suite de la prise en charge pour ses patients.
Alors, dernière question, professeur Magy, puisqu'on arrive au terme de notre entretien. Comme souvent dans les maladies rares, de nombreux patients atteints d'amylose à transthyrétine souffrent d'errance diagnostique qui peut se révéler délétère. Quelle est l'importance du diagnostic précoce, particulièrement dans cette pathologie?
Alors, il y a 15 ou 20 ans à peu près, le pronostic de cette maladie était très mauvais, voire effroyable. C'est une maladie mortelle et le seul traitement efficace, outre les traitements symptomatiques bien sûr, tels que les traitements de la douleur ou les traitements de la dysautonomie, c'était le recours à la greffe hépatique. C'est ce qu'ont montré les grandes équipes comme les équipes portugaises ou pour la France l'équipe de Bicêtre. Et puis, au cours des 10 dernières années, sont apparus des traitements qui ont commencé à révolutionner un peu la prise en charge, avec tout d'abord des traitements qui stabilisent les fibrillaminoïdes et qui permettent de freiner l'évolution de la maladie, voire plus ou moins de la stopper, et plus récemment des traitements basés sur l'ARN qui vont permettre, dans un grand nombre de cas, de réellement avoir l'espoir de stopper complètement l'évolution de la maladie avec un pronostic qui probablement va être transformé considérablement dans les années qui viennent. Donc en fait, l'errance diagnostique, elle est réelle dans cette maladie et presque tous les patients qu'on voit ont eu une errance diagnostique de plusieurs mois, plusieurs années parfois. Malheureusement, l'atteinte du système nerveux périphérique est une atteinte qui est définitive bien souvent quand elle est installée. Donc ce qui est perdu n'est généralement pas retrouvé. Donc c'est vraiment d'une course contre la montre qu'il va s'agir pour traiter ces patients et surtout pour les diagnostiquer le plus tôt possible avant d'envisager la prise en charge.
Eh bien, merci infiniment, professeur Magy, de nous avoir éclairé sur les amyloses héréditaires à transthyrétine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.